C'est un podcast Vivre FM.
Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
On sait depuis toujours qu'un fort volume sonore peut causer des dommages irréversibles sur l'audition. On découvre aujourd'hui que le son compressé, selon son volume, entraîne également des dommages sur l'audition. Cette compression sonore est de plus en plus présente dans notre environnement, télé, radio et même téléphone. Notre santé est en jeu, on en parle.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Professeur Paul Avian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de Recherche d'Innovation en Audiologie Humaine, le CERIA. Et vous êtes accompagné de Christian Hugonnet, qu'on a déjà reçu ici sur Vivre FM, ingénieur du son et président fondateur de la Semaine du Son. Alors, tous les deux, vous allez nous expliquer quels sont les dommages que peuvent produire ce son compressé. Qu'est-ce que le son compressé ? D'abord, Paul sera avec nous également durant cette émission. Bonjour Paul.
Bonjour Carole. Bonjour Christian. Bonjour.
Alors, bonjour Paul. Est-ce qu'il y a vraiment un danger au son compressé ? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, Paul ?
Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait un danger sur le court terme, sinon on en serait déjà averti. Le gros problème en général des expositions sonores intenses, c'est que le danger se manifeste après des années et des années de pratique. C'est pour ça qu'on est un peu alarmé par les impressions qu'on a, les retours des auditeurs qui trouvent que le son compressé en intensité, devient vite très fatigant.
Oui, et alors qui en a conscience aujourd'hui ? Ça, c'est quand même nouveau. On ne nous le disait pas avant. Christian Hugonnet ?
La semaine du son est là pour justement amener ces prises de conscience. C'est notre but, hein, c'est d'amener effectivement à prendre conscience que...
Vous l'avez abordé donc en janvier, c'était janvier, début février,
oui,
la semaine du son.
Oui, c'était la troisième semaine du mois de janvier et la quatrième d'ailleurs, en fait. Ça vient de se terminer.
Oui, voilà. Et donc, alors vous nous avez fait découvrir en fait ce phénomène.
Oui, c'est quelque chose qui est connu surtout par les ingénieurs du son, hein, donc les mixeurs, les gens, c'est assez technique. Alors qu'on précise bien, il ne s'agit pas d'une compression de données, compression de, je dirais, temporelle, comme le MP3, etc., ou en tout cas des informations qui consistent à prendre une information sur 12 et continuer à entendre un signal qui a été... je dirais, réduit temporellement. Non, il s'agit là d'une compression de dynamique, c'est-à-dire une compression de niveau sonore. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compression ? Eh bien, on l'a inventée dans les années 60, lorsqu'on a eu besoin de mixer, en fait, deux instruments qui n'avaient rien à faire l'un avec l'autre. Je prends une guitare avec une batterie. Dans les années 60, avec les arrivées des Pink Floyd, des Beatles, etc. Donc, il fallait bien trouver un moyen pour rééquilibrer ces deux instruments qui ne pouvaient pas être mixés. Donc en fait, on écrase, c'est-à-dire qu'on écrase vers le bas, donc la guitare, de manière à ce que elle n'ait plus d'impulsion non audible d'ailleurs, mais qui vienne saturer la bande. Et on remonte tout ça et on remonte le niveau sonore de la guitare de manière à la mettre au niveau de la batterie. Et en fait, on en fait une galette finalement, c'est-à-dire que de ce soufflet qui était en fait une guitare, on en fait une galette, hein, bien aplatie, et on la met là où on veut par rapport à la batterie. Alors évidemment, cela donne évidemment un son qui n'a plus rien à voir avec la guitare d'origine, mais qui permet quand même de mixer en fait les deux. Le seul problème, c'est que dans les années 90-2000, les publicitaires se sont dit, mais c'est génial cette histoire-là, si je compresse tout et que je remets tout ça vers le haut, si je transforme tout mon message en une galette, eh bien la galette, je la mets effectivement là où je veux, au-dessus du bruit de fond de la ville, au-dessus du programme. Et c'est comme ça qu'on entend aujourd'hui, en fait, la plupart des publicités à un niveau plus fort que le reste du programme. Mais ce niveau de publicité est très compressé, c'est-à-dire c'est vraiment qu'une galette, et en fait, on n'a plus de niveau faible, on n'a que des niveaux forts tout le temps. Et le seul problème de ce type de message, c'est qu'il n'y a plus de micro-silence, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus un seul moment, effectivement, où le son peut descendre, en fait, il reste suspendu vers le haut en permanence. Et donc ça donne une ambiance comme ça tout le temps et qui finit effectivement par saturer, je dirais, la perception auditive. Donc nous avions, avant que le professeur Paul Avant se lance dans cette opération de recherche, eh bien nous avions cette impression de fatigue énorme que l'on ressentait lorsque on écoutait effectivement des sons décompressés toute la journée. Et là encore une fois, on est en train de découvrir quelque chose de tout à fait important, car scientifiquement, en s'intéressant à des cochons d'Inde, il va donc, le professeur Paul Avant va en parler, eh bien, il s'avère que nous avions raison de nous inquiéter de ce problème.
Oui, professeur Paul Avant, justement, vous avez décidé de mener une expérience ou de faire mener une expérience sur des cochons d'Inde. Alors, on ne pouvait pas utiliser des cobayes humains, vous avez dû utiliser des animaux.
On s'est dit assez logiquement que si notre hypothèse était que ce type de son était agressif, voire dangereux, on n'allait pas exposer délibérément des volontaires. Bien nous en a pris, parce que aussitôt après, il y a eu le confinement et donc les discothèques ont fermé. Donc je ne sais pas comment on aurait pu travailler. En tout cas, les cochons d'Inde ont la même audition, la même gamme auditive que l'homme, et ça nous permettait de les exposer exactement à des sons réalistes tels qu'on les aurait expérimentés dans une discothèque. C'était ça le point de départ de l'idée.
Oui, et alors qu'est-ce que ça a donné? Racontez-nous.
Alors on a placé ces animaux, après les avoir apprivoisés, dans une ambiance détendue, exposés comme dans une discothèque, à 4 heures de musique, un niveau tolérable selon la loi.
Donc ce n'était pas de la cruauté envers les animaux, puisque c'est ce que subissent les humains en fait.
Exactement, oui, tout à fait. Non, on était très prudents de ne pas induire le moindre stress qui pourrait expliquer à ce moment-là des désordres liés à une situation anormale. Donc les animaux étaient placés dans une petite boîte insonorisée, 102 décibels, on leur mettait pendant 4 heures de la musique, soit totalement naturelle, aussi naturelle que possible d'après les enregistrements, soit une musique surcompressée comme l'a décrit Christian. Et les deux énergies reçues pendant les 4 heures étaient exactement identiques, bien que la distribution d'énergie soit différente. Donc voilà, les animaux en sont sortis tout aussi indifférents, parce que, à dire vrai, c'est pas leur truc, la musique. Ils sont sortis en très bonne forme.
Vous racontiez que vous leur aviez fait écouter Adèle.
Alors, c'était des extraits d'Adèle. Voilà, on avait choisi quelques musiques, et la musique d'Adèle nous a paru pertinente parce qu'elle était très dense sur le plan spectral, beaucoup d'instrumentation, très variée. Et donc, sa version originale était, je veux dire, un très bon exemple de musique agréable, alors que la musique surcompressée était un peu oppressante, dans la mesure où, pendant des dizaines de minutes, il n'y avait pas le moindre silence, dans aucune bande de fréquence.
Oui. Et alors, vous avez fait cette étude scientifique très sérieuse. Et quelles ont été les conclusions?
Alors, on a mesuré nos animaux éveillés, bien sûr, en situation naturelle, comme des enfants auraient été testés en cabinet d'ORL, avec des petits bouchons dans les oreilles pour leur faire écouter des sons. On leur a mesuré la sensibilité de leurs oreilles et la réactivité de leur cerveau. Alors, bonne nouvelle, la sensibilité de leurs oreilles, hormis la sortie immédiate, a été parfaitement respectée. Donc, les normes actuelles sont protectrices des oreilles. À l'inverse, le jour même, le lendemain, le surlendemain, pendant une semaine, leur cerveau a perdu sa réactivité qui lui permet de protéger les oreilles contre des sons forts.
Oui, c'est-à-dire que ça entraînait une fatigue, peut-être un mal de crâne. Alors, c'est difficile de savoir pour des cochons d'Inde, mais...
On les a testés sur le plan comportemental. Ils ne manifestaient aucune souffrance ni aucun désagrément. Tout petit peu somnolent le lendemain de l'exposition, comme nous l'aurions été nous-mêmes. Hein. C'est 4 heures de discothèque, ça marque. Mais ça ne marque pas pendant une semaine. Oui. Donc la fatigue, on a appelé ça fatigue, une semaine de fatigue pour un événement unique, ça nous paraît très inquiétant. Et donc nous sommes en train d'étudier maintenant les causes profondes, c'est-à-dire a-t-on provoqué des lésions dans les circuits auditifs? Alors, celui que nous avons mesuré, c'est un circuit protecteur, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc,
il y a encore à voir, peut-être qu'on va trouver des lésions ou quelque chose de comparable.
Il y a beaucoup de choses à regarder, effectivement. Il faut savoir que certaines lésions, et c'est valable pour les êtres humains aussi, ne passent inaperçues en termes de sensibilité auditive. Donc, on peut avoir une audition, quand on nous fait des tests en médecine du travail, à l'audiogramme, parfaitement normale, et pour autant des dégâts.
Oui, oui.
En fait, on a démontré, et ça c'est important, que c'était plus le cerveau en fait qui pouvait toucher que l'oreille, ce qu'on appelle l'oreille externe, moyenne, interne, jusqu'aux cellules ciliées. C'est moins ce problème-là que ce qui se passe au niveau de la perception, de l'interprétation. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important et novateur.
Oui, sur ce sujet, j'aurais voulu en savoir plus sur les impacts sur le cerveau de la voix compressée, plus que des instruments en fait. Genre, par exemple, si on entend une voix qui est justement surcompressée, est-ce que ça va être plus difficile à suivre, si vous voulez ?
C'est une très bonne question. Là, je vais répondre à travers mon expérience d'ingénieur du son et d'acousticien et quelqu'un de très sensible à l'audition, si je puis dire. Je puis vous dire avec certitude qu'il y a bien une fatigue, en tout cas, quand on écoute un son qui est dit compressé par rapport à un son qui ne l'est pas. Moi, j'aime faire la différence entre deux radios. Alors, je vous les cite. J'ai Inter d'un côté, France Inter d'un côté, et puis France Musique de l'autre. France Musique n'est quasiment pas compressée, et France Inter l'est vraiment. Et donc, entre ces deux radios, les mêmes news sont écoutées d'une manière totalement différente. Autrement dit, elles sont perçues de manière différente. Alors, comment elles sont perçues de manière différente ? D'abord parce que j'entends tout et je comprends tout. Donc, mon cerveau fonctionne, c'est-à-dire je comprends ce qu'on me raconte. Si c'est compressé, je ne comprends plus ce qu'il me raconte. Et deuxièmement, quand j'arrête la radio, j'ai, dans un cas, effectivement, une fatigue intense. Dans l'autre cas, effectivement, je n'ai pas de fatigue. Et c'est une fatigue, je dirais, une sorte d'asphyxie de l'oreille à laquelle on assiste tous. Mais dont on est conscient quand on en prend conscience, encore une fois. Quand on entend qu'une radio, aucun type de son, évidemment, on n'en prend pas conscience. Pour avoir cette expérience, il faut faire une comparaison, si je puis dire.
Oui, alors en même temps, quand on éteint la radio, souvent on se dit « Ouf, je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça devait être pressant pour mes oreilles. » Quand on éteint le poste de télé ou une radio.
Oui, absolument. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes sur l'ordinateur. Vous avez effectivement une panne d'ordinateur ou en tout cas, vous avez la climatisation ou le système de ventilation qui s'arrête. Et quand ça s'arrête, vous dites « Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. »
Et oui.
Et donc, vous n'avez pas pris conscience. Mais n'empêche que ça rentre bien dans votre cerveau et vous êtes en permanence asphyxié. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la ville. Je veux dire, l'ambiance sonore de la ville, c'est un peu ça. C'est un non-stop permanent, continuel, qui ressemble un petit peu à un son compressé finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de silence et vous êtes asphyxié en permanence à travers en fait un son qui ne désemplit jamais. Et c'est une problématique tout à fait importante parce qu'elle n'est pas ressentie par tout le monde, enfin elle n'est pas en tout cas la même pour tous selon effectivement son degré social, je tiens à le dire. Il y a des quartiers de Paris qui sont extrêmement calmes, on a le silence, et bien d'autres où on n'a pas le silence.
Oui.
Donc là aussi, il y a une notion de bruit pour les pauvres et de silence pour les riches. Si je puis dire.
Malheureusement, Christian Huguenet. Paul Avion, vous restez avec nous, professeur Paul Avion. Et puis Paul aussi, vous restez avec nous. On en parle dans un instant. On continue à parler des effets de ces sons compressés sur notre oreille et sur notre cerveau.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant
avec Carole Clémence.
Aujourd'hui, nous parlons de la compression sonore et de ses dangers pour l'audition. Nous sommes avec le professeur Paul Avion, directeur du Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine, et de Christian Huguenet, ingénieur du son et le président fondateur de la Semaine du son qui vient de prendre fin, la Semaine du son UNESCO. Alors, on parlait de la première expérience au monde qui a été faite sur les dangers, enfin les effets de la compression sonore sur l'oreille. Alors, c'était avec des cochons d'Inde, vous nous l'avez expliqué, Paul Avion, et c'est vraiment une expérience unique pour l'instant qui se poursuit.
Elle se poursuit parce que maintenant qu'on a détecté le phénomène, nous souhaitons le comprendre. Alors, ce que nous savons, c'est que le cerveau auditif est très très actif, beaucoup plus que les autres parties de notre cerveau, parce que le son est quelque chose de très dynamique, vous le savez, à la radio. Et du coup, ben, ce système est beaucoup plus sensible aux perturbations qu'on lui impose sur des sons non naturels.
Oui. Alors, ce qui ressort donc de l'étude, je le rappelle, on l'a déjà dit, mais vous aviez deux groupes de cochons d'Inde. Un qui a écouté de la musique normale, non compressée, et puis l'autre de la musique compressée. Et celui qui écoutait de la musique compressée, on a vu des effets, et pas sur l'autre. Pas
voilà,
sur l'autre.
Exactement. Donc, vous avez raison de dire musique normale, parce qu'effectivement, la musique compressée est devenue fréquente, mais elle n'est pas normale. Et c'est effectivement ça le point important. Fatigue pendant une semaine, ça nous interpelle. En général, lorsqu'un sportif est fatigué pendant une semaine après une compétition, c'est qu'il s'est produit des lésions.
Oui, oui. Paul Avant, vous allez donc continuer cette expérience. Vous espérez retrouver quoi d'autres atteintes au cerveau, justement, de cette musique, de ces sons compressés?
Alors le cerveau est un système très complexe avec de nombreuses voies qui traitent les sons et donc beaucoup peuvent être abîmés lors de cette perception de sons compressés. Là encore, l'effet ne se verra que dans quelques dizaines d'années. On sait que le système est très résistant et supporte des agressions pendant très longtemps avant de céder. Et ça nous ennuierait beaucoup que dans 20 ans, on s'aperçoive qu'on a fait fausse route pendant 20 ans. Donc on essaie d'être un peu préventif.
Oui, oui, oui. En tout cas, c'est une première mondiale et vous en avez parlé pour la première fois dans la semaine du son de l'UNESCO. Et alors justement, vous me disiez hors antenne, il y a eu des témoignages intéressants et inattendus.
Alors, les musiques, évidemment, on n'est pas obligé d'aller en discothèque. Hein, c'est très agréable de temps en temps, mais ce n'est pas un loisir obligatoire. En revanche, il y a des professionnels qui sont exposés de plus en plus au son compressé, parce que cette technique de compression d'intensité s'est généralisée à la parole, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui était mentionné initialement. Et les professions qui sont affectées, ben c'est tous les gens qui utilisent les visioconférences et aussi ceux qui, par leur métier, sont amenés à traduire ces visioconférences en différents langages. Donc les interprètes de conférences, que ce soit à l'UNESCO, à l'ONU ou au Parlement européen, ont réagi à notre travail à la semaine du son en disant « Mais au secours, nous sommes aussi victimes au quotidien de ces difficultés que les compressions nous font rencontrer. De temps en temps, nous pouvons les supprimer, mais de temps en temps, ça n'est pas possible.
Oui.
Et nous pouvons, nous, faire la comparaison entre la fatigue quand nous pouvons enlever la compression et quand ça ne nous est pas possible.
Oui, c'est incroyable, ça. Alors, cette compression, on la trouve où? Est-ce que sur les radios, elle est systématiquement là? Sur les télés, elle est systématiquement là, Christian Huguenet?
Oui, elle est là à des niveaux différents. Il y a on compresse plus ou moins. Comment vous dire, un concert, par exemple, qui va démarrer le début du Boléro de Ravel, qui démarre à 40 décibels, qui est vraiment un niveau très très faible, et qui termine à 100 dB, ça vous fait, en fait, entre 100 et 40, ça vous fait une grande plage de dynamique. Il est clair que chez soi, si on écoute le Boléro complètement avec la même dynamique, on va exploser le voisin, le niveau du voisin, pour le voisin, et on n'entendra pas le début du Boléro. Donc on a besoin de réduire, de toute façon, cette grande marge de dynamique. Il faut bien la compresser un tout petit peu. Le seul problème, c'est que ça se situe lorsqu'on compresse de trop. C'est là où, effectivement, on n'est pas bon. Alors, c'est bien pour cela que, d'ailleurs, cette année, on a décidé avec Universal, qui nous a rejoint là, sur ce sujet-là, de lancer un label l'année prochaine, qui sera lancé au mois de janvier prochain, pour voir jusqu'où on peut aller sans avoir, effectivement, à détruire, enfin, sans avoir à porter atteinte à ce problème d'audition. Donc, on va se donner un label qui nous certifiera qu'il n'y a pas, effectivement, de problème majeur à pouvoir écouter sur 4 heures de temps, justement, une musique dite compressée. On parle bien de surcompression. Et cette surcompression, on s'y habitue très rapidement. Plus on compresse, plus on a envie de compresser. Tout simplement parce que l'oreille est paresseuse, comme nous tous, comme ne reste que nos organes. Et quand on compresse vraiment, on ne fait plus l'effort d'aller chercher les niveaux faibles. Tout arrive finalement dans l'oreille et on se dit, mais c'est super, j'entends tout, n'importe où, et je l'entends surtout quand je prends le métro, le RER, etc., dans mes écouteurs, et c'est total, c'est génial d'entendre le Boléro du début à la fin, au même niveau finalement de 80 décibels, mais qui ne bouge plus, quoi, qui reste bloqué comme ça vers le haut. Mais est-ce que c'est encore le Boléro?
Oui.
Il faudrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas des musiques qui ne peuvent pas être écoutées n'importe où. Il y a des musiques qui demandent à être un tout petit peu, à être écoutées dans un lieu un peu plus calme que d'autres.
Oui.
Et c'est tout le problème. On veut tout dans cette société aussi. On veut avoir de la musique n'importe où, même si l'ambiance de la rue est extrêmement bruyante. Donc il y a un vrai problème là aussi d'approche intelligente de ce que nous écoutons.
Oui. Alors vous parlez de la musique, mais ça peut être aussi une émission de radio, par exemple comme celle-ci, qui peut être compressée. C'est pas forcément à des niveaux ennuyants.
Ben celle-là, j'ai jamais écouté vraiment le son de
Vous percevez quand vous écoutez
l'émission? Oui, je l'entends. Hier, j'ai balayé plusieurs radios. Vous n'étiez pas parmi celles-là. Certaines sont vraiment, vraiment, vraiment très compressées, et d'autres le sont beaucoup moins. Donc celles qui sont moins, ben, on l'entend tout de suite parce qu'on a justement une respiration, on a des niveaux faibles, des niveaux forts. À partir de là, c'est bon. Mais quand on a que des niveaux moyens ou forts, tout le temps, on se rend bien compte qu'il y a en fait un problème de surcompression. Alors, il faut savoir que les radios surcompressées pour pouvoir être envoyées à l'autre bout de la France à puissance d'émetteur égale. Maintenant, effectivement, c'est plus vrai. Avec le numérique, avec les radios numériques terrestres, eh bien, on n'a plus besoin de compresser comme on avait besoin de le faire pour être entendu très loin.
Voilà, donc on pourrait arrêter de compresser en radio.
On pourrait très bien arrêter de compresser, et on va certainement s'y employer. En tout cas, ça sera notre combat pour les années à venir, en tout cas, de proposer à ce que les oreilles ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la compression.
Oui, alors là on a parlé des médias, radio, télé, le téléphone aussi, il est compressé?
Oui, le téléphone, oui. Alors, pourquoi? Parce que, oui, quand vous utilisez votre smartphone, que vous parliez très faiblement ou très très fort, vous avez effectivement le même niveau à l'autre bout. Hein. Tout simplement, bah, c'est pratique. Hein. Ça permet d'être en tant que quelqu'un, même dans la rue. Voilà. Et donc, c'est un outil extrêmement fiable de ce point de vue-là, donc très compressé. On a, si vous aviez une... Pour être simple, si vous avez une dynamique de 30 décibels, donc une grande marge de dynamique sonore, vous passez de 30 à 4 ou 5. Quoi. Donc on a vraiment un effet de compression qui vous permet d'entendre quelqu'un n'importe où. Alors ça pose des problèmes parce qu'on l'a signalé notamment durant le Covid, et notamment en télétravail. Si vous travaillez chez vous tranquillement et que vous appelez votre boss depuis votre lieu de résidence et qu'une personne parle derrière vous, cette personne qui parle à un niveau moins fort va être également écoutée au même niveau que vous.
Ah oui.
Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention quand on utilise en fait un iPhone ou un smartphone, tout simplement parce que tout arrive à l'autre bout au même niveau.
Oui, et c'est vrai qu'on est souvent fatigué après une conversation téléphonique.
Très fatigué, forcément. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais garder l'appareil d'abord sous les oreilles, parce que vraiment, il n'y a plus de tampon. Il n'y a plus de tampon entre vous, effectivement, et l'appareil. Donc, il faut évidemment écouter sur des enceintes à une certaine distance.
Et bah justement, je voudrais rebondir là-dessus. Vous pensez qu'une conversation téléphonique en haut-parleur est peut-être plus agréable à mener? Enfin, haut-parleur avec...
Oui, ça permet d'être un peu plus confortable parce que vous avez une référence par rapport à votre environnement naturel. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est la notion de référence. L'oreille n'a jamais, en fait, eu une notion... elle est relative. La perception auditive est relative. Donc, quand vous avez un autre élément qui vous permet de savoir où vous en êtes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez comparer. Le seul problème, c'est d'entendre, effectivement, sur un casque fermé, par exemple, des musiques dites compressées, parce que là, vous n'avez aucune raison de vous arrêter d'écouter et vous n'avez plus de comparaison possible.
Oui. Paul Avian, ce sont des choses que vous entendez, que vous connaissiez avant de faire cette expérience?
Pas vraiment, parce que le dogme... Dans le domaine de la protection auditive, c'est l'énergie. Tout ce qui compte, d'après les textes de réglementation, c'est l'énergie, pas sa répartition dans le temps. Donc il est facile de constater que lorsqu'une voix toute seule est compressée, elle ne devrait pas l'être puisque la compression a pour but de la faire émerger par rapport à des sources concurrentes. S'il n'y a qu'une seule voix, il n'y a pas de concurrence.
Oui.
Mais elle est très difficilement intelligible. Donc je ne sais pas ce que mes cochons d'Inde en ont pensé, mais les paroles d'Adèle en surcompression, c'est une catastrophe, c'est de la bouillie. Alors je pense que ce n'est pas très respectueux de l'artiste. Et alors que quand c'est naturellement diffusé, la parole est parfaitement claire. Ça pose un problème, on en parlait tout à l'heure pour le rap, de créativité. parce que la sursaturation des rythmes ne doit pas cacher la parole qui a quand même été construite pour véhiculer un message. Je pense que les artistes en prennent maintenant un petit peu conscience.
Oui, ça commence avec Universal et ça va se poursuivre. Et évidemment, vous restez avec nous, Paul Avant et Christian Hugonnet. On va continuer à expliquer les dangers de la compression sonore et puis ce que c'est exactement.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Et nous parlons de la compression sonore et de ses effets sur l'audition, des effets importants. On l'a vu tout au long de cette émission avec le professeur Paul Avant. Ces effets, vous les avez vus dans une expérience que vous êtes toujours en train de mener. Je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, on a bien expliqué les choses. Lorsqu'on écoute un son surcompressé, on a des effets négatifs, notamment une fatigue du cerveau qu'on n'a pas sur une musique non compressée. Il y a une réelle différence. Alors, sur cette semaine du son UNESCO, Christian Hugonnet, vous avez eu différentes conférences pour signaler justement ça, mais il y a d'autres dangers liés à l'audition que vous avez pu signaler. Et il y avait une conférence avec Thomas Dutronc, notamment.
Oui, bah c'était sur ce thème-là. Thomas, depuis pas mal de temps, me dit, Christian, j'en ai marre d'avoir des sons qui sont, enfin des musiques qui sont compressées pour être entendues à la radio. Voilà ce qu'on lui dit, quoi. Donc, donc, en fait, il fait un superbe master, et puis après, on lui dit, Coco, maintenant c'est terminé, on va te faire maintenant un autre son qui n'a plus rien à voir avec ce que tu as entendu. Voilà, c'est ça le problème. Donc, lui, il est parti en guerre aussi. Donc, il était un des premiers, c'était pas évident, de trouver un musicien de renom qui veut bien s'engager dans la bataille en sachant quand même que les multinationales sont derrière, je veux dire, et le premier qui bouge est un peu mort.
Ah, vous pensez qu'il y a une crainte ?
Eh bien là, oui, parce qu'effectivement, bah, tout le monde se met à genoux par rapport, effectivement, à la différence. Qu'est-ce qui fait qu'une musique est entendue aujourd'hui au niveau national ou international ? C'est grâce aux radios, je veux dire. Et si les radios ne jouent pas le jeu, je veux dire, c'est mort pour le distributeur. Donc, évidemment, tout le monde se tient par la barbichette dans cette affaire-là. Donc, il fallait effectivement trouver la bonne personne qui est... assez de ressources pour pouvoir dire moi j'ai envie de changer, et là il s'est positionné de manière très très ouverte d'ailleurs on peut le voir et on l'entend en tout cas sur
on peut toujours écouter cette conférence
sur le net, voilà. Et on peut l'entendre sur pas tout de suite, mais en tout cas sur Facebook il s'y exprime très largement en tout cas, et encore fallait-il ouvrir cette brèche.
Oui.
Bon, Universal a aussi joué le jeu en disant nous aussi on a envie de montrer l'exemple de ce qu'il faudrait faire pour demain pour nos jeunes aujourd'hui. Et pour le jeune demain aussi.
Et Christian Hugonnet, vous qui êtes ingénieur du son, à partir de quel niveau de compression ça devient gênant, ça devient problématique ? Il faut s'arrêter on compresse jusqu'à quel niveau ?
Eh bien, ça va être l'objet de la recherche scientifique qu'on va lancer cette année avec Universal, mais avec IRCAM également, avec la Fondation de l'Audition, la Fondation pour l'Audition, avec l'Institut de l'Audition également, à laquelle appartient évidemment Paul Avant. Et donc, nous allons réfléchir ensemble sur justement cette limite à ne pas dépasser en termes de compression. Donc, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais ça devrait aboutir dans quelques mois, de manière à ce qu'on puisse, l'année prochaine, imaginer ce fameux label qui permettra justement d'avoir l'assurance d'une écoute saine, si je puis dire, une écoute bio.
Oui, bon, on attend ça avec impatience, Christian Hugonnet. Paul Avant, comment faire de la prévention ? Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement ?
La prévention dans le domaine de l'audition, c'est comme dans d'autres domaines. On a affaire à des effets à très long terme qui ne motivent pas beaucoup les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer que notre système auditif a des performances extraordinaires, aussi des fragilités. Maintenant, il ne faut pas être pessimiste, parce que je pense que les outils dont nous disposons, les casques d'écoute, les bouchons, les earbuds qu'on peut mettre dans le métro ont énormément progressé ces dernières années. Je pense qu'au catalogue...
Vous conseillez de mettre des bouchons dans le métro ?
De toute façon, l'idée que les gens passent des heures dans le métro et ont envie de se déconnecter un peu, d'écouter leur musique, ne me paraît pas choquante. On est dans un monde où l'individu a besoin de se créer son petit univers tranquille. Le prix à payer jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était de surcompresser pour ne plus entendre l'environnement au prix qu'on vient de citer. Maintenant, il existe des dispositifs beaucoup plus sophistiqués qui atténuent le bruit de fond extérieur, qui le calculent, qui le soustraient, avec des bouchons que vous trouvez sur Internet, qui coûtent quelques centaines d'euros, certes, à l'heure actuelle, mais qui ont quand même des qualités extrêmement prometteuses.
Vous conseillez quoi, justement ?
Ben, je ne veux pas citer de marques, mais de nombreuses marques, autrefois de grand luxe, permettaient l'élimination du bruit. On en mettait dans les avions si on avait les moyens de se l'offrir.
Oui.
C'est la marque Bose, pour ne pas la citer. Mais maintenant, il y a des dispositifs portatifs extrêmement de plus en plus de bon marché et efficace.
Vous parlez du mode anti-bruit sur les casques Bose.
Je parle du mode anti-bruit notamment, et aussi de tout ce qui permet à l'environnement sonore d'être contrôlé par des petits logiciels personnalisés. Ça existe même pour les sujets sourds dans leurs appareils auditifs.
On
peut théoriquement se protéger de bruit agressif à partir de son smartphone sans avoir à manipuler de boutons. De manière très intuitive, et ça, je pense qu'on devrait l'enseigner comme utilisation bénéfique pour les enfants, par exemple.
Très bien. Donc, les bouchons d'oreilles, des casques particuliers, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de pas trop écouter, de sélectionner ce qu'on écoute ?
Alors, sélectionner ce qu'on écoute, ça s'apprend, je crois. Donc, c'est un peu c'est le problème ultime. On a montré, par exemple, qu'en insonorisant un tout petit peu certaines cantines scolaires, le niveau de bruit baissait de manière drastique. Et les normes de construction ont tenu compte de ça. Donc, petit à petit, ces problèmes-là sont pris en compte.
Oui, alors, dans les cantines scolaires, c'est un problème de volume sonore, c'est plus un problème de compression.
Oui, mais alors, les enfants compriment eux-mêmes ce qu'ils émettent, parce que, de toute façon, c'est celui qui crie le plus fort qui gagne. Et ça revient bien un petit peu à une compression d'intensité.
D'accord.
Mais ça, c'est un réflexe, c'est complètement automatique. Et on peut le combattre automatiquement en diminuant la réverbération.
Très bien.
Ça coûte cher, mais c'est faisable.
Ce qui peut être cité, c'est l'absence de silence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'une cantine scolaire soit aussi bruyante, quoi. Donc on sait aujourd'hui mettre en place des panneaux absorbants, ce qui devrait être réalisé dans toutes les cantines scolaires, de manière à ce que les enfants puissent manger dans un minimum de calme. C'est la moindre des choses qu'on puisse demander, en tout cas, à une structure, c'est de mettre en place des installations pour que le calme soit quand même un peu présent lorsqu'on déjeune. Ça, ça fait partie des choses élémentaires. Alors évidemment, à partir de là, si on ne prend pas conscience de cela, on va écouter de la musique encore à un niveau plus fort. C'est ce que disait Paul tout à l'heure. Il est là le problème, c'est qu'on écoute toujours au-dessus du niveau ambiant. Donc si la ville, d'une certaine manière, pouvait aussi faire tomber son niveau de bruit, et c'est un problème urbain, c'est un problème effectivement d'urbanisme également, c'est comme cela qu'on essaye d'initier un peu nos politiques quand même, et nos maires, et leur dire attention, on ne va pas continuer comme ça à développer des villes sans se soucier du sonore. Donc le sonore devient une préoccupation majeure, et qui, vous voyez, par effet de boule de neige, finalement, nous amène à ces effets de compression.
Oui, alors, l'étude que vous avez menée, Paul Avant, professeur, cette première mondiale sur les effets de la compression sonore, est-ce que vous avez senti qu'on commençait à prendre conscience des dangers et que les pouvoirs publics, peut-être, allaient bouger ? On a vu qu'Universal, mais c'est un acteur privé, prenait conscience des choses, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres ?
Depuis quelques années, il y a une forte prise de conscience des pouvoirs publics. Il y a depuis des décennies le Conseil national du bruit, mais de plus en plus les maires et les communautés urbaines sont concernées, essaient de prévoir des plans d'action. Sur l'Île-de-France, vous avez Bruit Parif qui cartographie les zones de bruit, qui tente de proposer des solutions. Je pense que la prise de conscience existe. Maintenant, le problème de l'ambiance sonore, c'est une compétition et on ne peut pas attaquer une seule source de bruit. Par exemple, les avions en bout de piste d'Orly, c'est un problème. Mais il y a aussi les chemins de fer, les voitures, les gens eux-mêmes. La compétition fait que plus il y a de bruit, plus les gens vont faire du bruit.
Oui.
Après, c'est une question d'éducation, mais c'est aussi une question de mesure. C'est-à-dire qu'on est tous extrêmement satisfaits quand on va au stade d'entendre la foule hurler pour soutenir son équipe pendant 2 heures. Ça fait partie de la vie. De tout temps, il y a eu ça. On ne peut pas le supprimer. Il faut garder l'équilibre. Il faut qu'en sortant du stade, on puisse aller chez soi et bien dormir sans avoir de nouveau du bruit extérieur.
Oui. Alors, ce qu'on peut percevoir, c'est que les plus jeunes ne sont pas vraiment sensibles à cette fatigue cérébrale de la compression sonore. On a l'impression qu'ils sont moins sensibles. Non, vous n'êtes pas d'accord.
Ça dépend des situations. Je discutais souvent avec les étudiants en médecine quand j'allais à la cafétéria. Je n'y vais plus à cause du bruit, et pas que d'ailleurs. Ça ne nous regarde pas. La cuisine compte aussi.
Oui.
Ils sont très sensibilisés. Et pas seulement parce qu'on leur fait quelques cours, peut-être 2 heures dans toutes leurs études à ce sujet. Hein, c'est le grand maximum. Alors peut-être ça, c'est aussi une lacune importante. Mmh. On ne sait pas quels sont les dangers du bruit, même si on est éduqué pendant des heures par toutes les semaines. C'est embêtant. De même qu'on ne sait pas ce qu'est un vaccin, et enfin, ça nous entraîne ailleurs, mais c'est des problèmes de société où l'éducation est primordiale. Et je rends hommage à la semaine du son pour avoir mis sur la table l'éducation. Réfléchissons autour d'un problème et les gens se font leur opinion.
Oui.
Simplement dire qu'on en est amené aujourd'hui à initier les gens de ce que c'est qu'un décibel. On ne sait toujours pas ce que c'est qu'un décibel. Quand on dit à quelqu'un 40 décibels, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour lui, il n'a pas la correspondance encore avec le degré Celsius, par exemple. Hein. Ce serait intéressant de voir. Et il n'y a pas. Donc on a demandé justement aux audioprothésistes, d'ailleurs, de réaliser, en fait, de présenter dans chacune des mairies de France une démonstration audiovisuelle qui permette à chacun de se faire une idée de ce que c'est qu'un décibel. Donc on a lancé ça cette année, on espère que ça va donner quelques résultats en considérant que l'audioprothésiste finalement est le meilleur référent sonore dans chacune des villes de France. Oui. Non, il est important qu'à l'école également on sache ce que c'est qu'une nuance et qu'il ne faille pas attendre de jouer d'un instrument de musique pour savoir ce que c'est qu'une nuance. Et on amène aussi, on propose aussi à pas mal de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs de revenir dans des lieux qui sont acoustiquement viables, autrement dit où la musique est jouée d'une manière acoustique sans électroacoustique. Ça leur permet d'avoir une référence sur ce que c'est qu'un niveau faible, quoi.
Donc n'écoutons pas trop de Maître Gims, ça fatigue le cerveau. En conclusion.
Oui, non, encore une fois, il faut être conscient, et c'est ce que disait Paul avant tout à l'heure, la conscience, on peut tout faire quand on est conscient, c'est ça qui est intéressant, c'est l'intelligence finalement, la connaissance de notre environnement sonore, c'est ce que essaye de promouvoir la semaine du son, quand on sait ce que c'est qu'un son compressé, on peut l'écouter précisément, mais avec tout le recul nécessaire.
Et Christian Hugonnet, merci pour cette semaine du son justement qui fait bouger les choses, ainsi que votre étude, Paul Avant, sur la compression sonore. Merci à vous deux. On continuera à suivre justement cette étude qui se poursuit et à suivre les évolutions de ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer les choses. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Merci, au revoir.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.